C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous retrouvons la vie tumultueuse de Napoléon III. Orsini a raté l'attentat, mais il a réussi quand même. La France va aider l'Italie. Le 13 mars 1858, Orsini et Pieri montent à la guillotine en criant « Vive l'Italie, vive la France !» En Italie, Orsini fut considéré comme le martyr d'une cause et des messes furent célébrées à l'attention d'un nouveau saint du calendrier. La supplique d'Orsini va toucher Napoléon au point qu'en juillet, il rencontrera Cavour à Plombières et que de ces deux jours d'entrevue du 21 et 22 juillet résultera la décision d'aider les Italiens à bâtir un royaume de Haute-Italie en échange du comté de Nice et de la Savoie. Qu'advint-il de Gomez et de Di Rudio ? Gomez purgea 29 années de prison à Cayenne avant d'être élargi en mars 1887, puis de se retirer à Naples, où la mort le saisit dans un état d'extrême pauvreté à 58 ans. Quant à Di Rubio, il échappa à l'échafaud et fut condamné comme Gomez à la prison à vie à l'île du Diable, sauf que quelques mois plus tard, en compagnie de 12 comparses, il se fit la malle et gagna la Guyane britannique, puis de là, il s'enfuit en Angleterre avec son épouse, anglicisa son nom en Charles de Rudio et donna des conférences. En 1860, il s'embarque pour les États-Unis, devient soldat dans le 79e régiment d'infanterie de l'État de New York, sert en Virginie, en Floride, et démobilisé, reprend du service. Il finit par atterrir au 7e régiment de cavalerie comme sous-lieutenant, surnommé « Comte sans compte ». En raison de son attitude hautaine, il devient premier lieutenant à 43 ans. Il survécut avec un soldat à Little Big Horn, cachés tous les deux durant 36 heures. Un livre fut publié relatant son aventure. Il poursuivit sa carrière militaire, prit sa retraite à 64 ans, avant de décéder en 1910. Le fils du comte et de la comtesse Aquila di Rudio disparut à 78 ans après cette vie d'aventure à peine croyable. Les charmes de la Castiglione avaient opéré, le sacrifice d'Orsini aussi. Il y avait d'autres motivations à l'aventure italienne. Napoléon III rêvait à un destin militaire sur les traces de son oncle, qui d'ailleurs avait fait ses armes en Italie. Il va acheter 10 000 hectares entre Châlons et Reims et y faire établir un camp. Et en 1857, s'y exerce au maniement des hommes car il a la ferme intention de prendre le commandement dans la guerre contre l'Autriche, mais à 49 ans, il manque d'autorité pour trancher les querelles entre un maréchal et un général et malgré 11 grandes manœuvres entre le mois d'août et le mois d'octobre, entrecoupées de revues et grands-messes, l'empereur préfère étudier l'armement le plus récent et en garnir son cabinet accompagné d'études de balistique et d'une commande de canons de moins de 350 kg. Il multiplie les idées justes mais manque de constance pour leur exécution et ne parvient pas à se faire obéir par ses officiers durant la campagne d'Italie. Lors de la bataille de Solferino, on le voit vérifier les pointages des pièces d'artillerie avec compétence avant de sembler dépassé par la situation. Par bonheur, la bataille finit par tourner à l'avantage des Français et c'est donc la victoire, mais à quel prix ? Visitant le champ de bataille le lendemain, un horrible lieu de carnage où blessés et morts sont innombrables, l'empereur blême d'effroi est en larmes, il n'est pas le seul à arpenter ainsi le théâtre sanglant de Solferino. Un Suisse, Jean-Henri Dunant, atterré par l'horrible spectacle, va fonder le 17 février 1863 le Comité international de secours aux blessés de guerre, la fameuse Croix-Rouge, dont le personnel bénéficie de l'immunité et intervient pour porter assistance aux belligérants des deux camps. Il n'y a pas que les affrontements militaires qui font des victimes dans d'atroces souffrances. Deux années plus tard, en 1861, une jeune fleuriste britannique, Mathilda Scherer, vomit du liquide vert tandis que le blanc de ses yeux a viré également au vert. Son foie est saturé d'arsenic. La raison ? Une mode, celle du vert de Chile, un vert émeraude, lumineux, qui séduit les élégantes de l'époque victorienne qui adorent arborer des robes de bal de ce coloris tendance. Et arborer sur leur chevelure des fleurs saupoudrées de cette irrésistible couleur, obtenue en versant une solution de potasse et d'arsenic blanc dans une solution de vitriol de cuivre, une invention du chimiste germano-suédois Carl Wilhelm Scheele. Une variante plus concentrée, le vert de Schweinfurt, est développé en Allemagne. La mode de ce verre se répand de façon fulgurante. Tissus pour les robes et l'ameublement, bonbons et leurs emballages, décorations de jouets et même papier peint comme celui garnissant la chambre de Napoléon Ier en son exil de Sainte-Hélène et l'empoisonnant lentement mais sûrement à la poussière d'arsenic. Il en résulte des nausées, des douleurs, des étourdissements, un amaigrissement. Par bonheur pour certains, la présence de cuivre vomitif dans le mélange évita le pire. On tenta d'interdire des pâtisseries et des chocolats généreusement saupoudrés du poison couleur pistache, parfois 6 grammes par feuille. Les industriels et les confiseurs traînèrent les pieds. Le contact avec le produit devenait permanent avec les robes, châles, chaussures et gants. La quantité d'arsenic présente dans une robe pouvait tuer tous les invités du bal. Quant aux serre-têtes ornées de feuilles artificielles d'un si beau verre, ils peuvent faire calancher 20 personnes pas moins. Les mains des dames se couvrent de pustules, celles des ouvrières qui fabriquent les feuillages artificiels sont rongées et on ne s'étonne pas de n'y voir gambader ni chats ni rats, tous éliminés par l'arsenic. Ce n'est qu'après 1870 que le verre cobalt inoffensif fit son apparition, mais la couleur verte resta tabou au théâtre car supposée porter malheur et peu prisée des maisons de grande couture. On le voit, une époque haute en couleurs, si l'on peut dire.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Petits pois dans l'assiette, concombres et citrons verts, c'est la fête. Pommes et poires, vertes aussi, saines et délicieuses, quel régal, oui. Vert, vert partout, on le voit, fait de jaune et bleu, c'est ça. Forêt, prairie, plantes à foison, le vert est notre passion. Dans le jardin poussent les fleurs, tiges vertes s'élèvent avec bonheur. Fougères et mousses couvrent le sol, rendant notre monde vert, c'est drôle. Vert, vert partout, on le voit, fait de jaune et bleu, c'est ça. Forêt, prairie, plantes à foison, le vert est notre passion. Les grenouilles vertes sautent tout le jour, les tortues dans leur carapace font leur tour. Les lézards se cachent dans les feuilles, les animaux verts qu'elle accueille. Vert, vert partout, on le voit, fait de jaune et bleu, c'est ça. Forêt, prairie, plantes à foison, le vert est notre passion. Les feux disent passer quand ils sont verts, à la Saint-Patrick, le vert est dans l'air. Crayons et feutres dans nos dessins, le vert en l'art vraiment malin. Vert, vert partout, on le voit, fait de jaune et bleu, c'est ça. Forêt, prairie, plantes à foison, le vert est notre passion. Le vert est notre passion.
Revenons à Napoléon III, chef de guerre. Casteggio, Palestro, Magenta, Solferino, l'empereur, malgré une armée mal organisée, volait de victoire en victoire et rien ne semblait arrêter ce triomphe jusqu'au moment où la Prusse siffla la fin de la récréation et commença à mobiliser. Alors Louis se hâta de conclure un armistice avec l'Autriche, fracassant ainsi le rêve d'unité italienne, le Piémont ne récupérant que la Lombardie et Parme. Lorsque Napoléon sortit de son entrevue avec Victor Emmanuel, il constata que les drapeaux étaient mis en berne et que les vitrines étaient emplies de portraits d'Orsini. Il se hâta de rentrer en France, tandis que la Castiglione, désormais le cadet de ses soucis, l'attendait en vain à la Villa Gloria. En fait, Victoria avait été remplacée dans le lit de l'empereur par Marianne Ricci, comtesse Walewski, dont l'époux complaisant s'accrochait en fermant les yeux à son portefeuille des affaires étrangères au point de rester sourd aux ébats des amants lorsque Louis, depuis sa chambre, gagner la couche de la comtesse par un escalier discret, tandis que le mari dans la chambre adjacente feignait de ne rien entendre. L'impératrice ne pouvait rien ignorer de cette liaison puisque lors d'un voyage en train, assise aux côtés du comte dans un compartiment, elle entrevoyait, lorsque battait la porte de séparation avec le compartiment voisin, son époux, assis sur les genoux de la comtesse, l'embrassant à pleine bouche et occupé à plonger ses mains dans son corsage. La comtesse, comme récompense de l'octroi de ses faveurs, se vit durant 2 bonnes années comblée de cadeaux pour elle et de faveurs pour son candolice de mari. Toutefois, Marie-Anne n'était pas la seule à calmer les ardeurs impériales. La garçonnière de la rue du Bac recevait la visite de danseuses peu farouches, mais les ballerines étaient parfois conviées au palais des Tuileries et ce fut là qu'un verrou non tiré fit découvrir un jour à Eugénie à quelles activités se livrait son époux officiellement occupé à lire des traités de balistique. S'ensuivit une scène mémorable, à l'issue de laquelle Eugénie, mêlant dans ses invectives français et espagnol, annonça qu'elle partait à l'étranger, et elle le fit, parcourant durant 1 mois avec 4 personnes les tristes landes pluvieuses d'Écosse sous un nom d'emprunt, tandis que l'Europe se demandait où avait bien pu passer Eugénie. Lorsqu'elle réapparut en décembre, Louis se rendit compte que les regards de l'impératrice étaient désormais froids et dépourvus de la moindre affection. Alors, pour chasser son spleen, l'empereur s'en allait patiner sur le lac gelé du bois de Boulogne, où il dispensait des cours de glisse à de jolies demoiselles. C'est là qu'en compagnie de l'impératrice et sous ses yeux sidérés, il évolua au bras d'une américaine de 20 printemps, virtuose du patin à glace, du nom de Lily Moulton, épouse d'un fils de banquier richissime et cantatrice par-dessus le marché. Eugénie, pour le coup, fut assez habile pour paraître complaisante, recevoir Miss Moulton aux Tuileries et l'aiguiller habilement vers l'autre séducteur de la place, le fameux duc de Morny, qui souffla la jeune américaine sous le gros nez impérial. Parmi les cuisses légères qui fréquentèrent la garçonnière de la rue du Bac, on compta la Païva, qui ne fut point reçue aux Tuileries et qui exaspéra rapidement Louis en évoquant que le prix de ses meubles. On devait la retrouver occupée à la chute de l'Empire. En revanche, une autre maîtresse, une certaine Julie Leboeuf, qui se faisait appeler Marguerite Bélanger, mais que ses amants surnommaient Margot la rigoleuse, rapport à son humour dévastateur, renommée aussi pour son incroyable souplesse, arrivait dans les salons en marchant sur les mains et faisait le ravissement des mâles présents, bien que ses ambitions de théâtreuse n'eussent pas dépassé une seule et désastreuse représentation. Par une après-midi d'orage, trempée comme une soupe, elle avait reçu une couverture brodée d'un N jeté depuis la voiture impériale, couverture qu'elle entreprit de restituer le lendemain. Une liaison de 2 ans allait s'en suivre entre Margot et son seigneur, ainsi qu'elle surnommait l'empereur. Il lui offrit un hôtel particulier pour abriter leurs amours. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, Napoléon III épuise sa santé dans ses innombrables incartades. L'impératrice va, elle, s'adonner au flirt avec de lourdes conséquences politiques. Nous le découvrirons lors de notre prochaine rencontre.
Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder, pour un flirt avec toi. Je pourrais me tanner, pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit petit tour au petit jour entre tes draps. Avec toi, je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi, pour un petit tour, un petit jour entre tes bras, pour un petit tour. Petit jour entre tes draps.